Loué et exalté soit le Seigneur. En lisant ce texte, nous pensons à Ésaïe 53. Nous y viendrons dans un instant. J'aimerais ajouter à ce qui a déjà été lu sur la fidélité de notre Seigneur, deux versets tirés de 1 Corinthiens, le chapitre 4. Ici, la fidélité est également exigée de ceux qui sont ses serviteurs et administrateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Que chacun nous considère comme des serviteurs du Christ et comme des administrateurs des mystères de Dieu. Dans cet état de choses, cependant, on exige des administrateurs qu'un tel soit trouvé fidèle. Avons-nous tous entendu cela? Une parole très sérieuse. Que notre Seigneur soit fidèle, cela nous paraît évident. Ce n'est pas une question. Mais il veut aussi que nous administrons fidèlement ce qu'il nous a confié. Que nous l'administrons de manière à ce que son nom soit honoré et glorifié. Et si nous avons lu qu'il est fidèle sur sa propre maison, nous pouvons lire dans la lettre à Timothée, 1 Timothée chapitre 3 verset 15, nous pouvons lire qui est cette maison. 1 Timothée chapitre 3 verset 14 et 15. On m'a demandé de parler plus lentement à cause de la traduction. Et cela me vient maintenant de la pensée. J'aurais bien préféré le faire comme le Seigneur l'a fait selon Luc 4. Il a lu et il s'est assis. Et des paroles précieuses sont sorties de sa bouche. Je lis de 1 Timothée chapitre 3 verset 14 et 15. Je t'écris ceci dans l'espoir de pouvoir venir à toi assez tôt. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a des prescriptions pour tout. J'espère que la chère sœur n'est pas ici aujourd'hui. Elle qui a eu récemment une conversation qui a été traduite. Non, frère Schmitt, je ne peux pas non plus dire de telles choses. Mais il y a effectivement parfois des situations où un passage biblique est totalement sorti de son contexte et est utilisé, sorti de son contexte, est pris et sorti de son contexte et utilisé ainsi. Est-elle là? Si elle est là, qu'elle ne m'en veuille pas. Il s'agissait de la relation entre elle et son mari et elle a soudain dit, il est pourtant écrit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et comme venant du ciel directement, l'inspiration est venue. Et je lui ai dit, stop, tu as utilisé un passage biblique à l'envers, qui n'est pas correct ici dans ce contexte, car le passage biblique selon lequel nous devons obéir à Dieu plus qu'aux hommes, c'est le contexte de Pierre, une fois qu'il a été interdit aux apôtres de prêcher au nom du Seigneur. Avez-vous compris cela? Et j'ai dû ensuite le dire si clairement. Mais personne ne m'en veut parce que je le fais avec tact et amour. la parole du Seigneur doit être effectivement, elle doit être appliquée correctement, utilisée correctement. Sinon, on peut se faire du mal à soi-même et peut-être même aux autres. Donc, nous sommes la maison de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici et nous devons savoir comment nous y comporter. Et la maison de Dieu est la colonne et le fondement de la vérité. Et l'appui de la vérité, l'appui de la vérité. Et c'est pourquoi rien d'autre que la pure vérité ne doit être prêchée dans l'Église. Car l'Église elle-même est un support. Elle est porteuse, elle est une colonne, donc un pilier. Et comme nous l'avons lu, l'appui de la vérité. Dès l'instant où une église se détourne de la vérité, elle cesse d'être l'église du Dieu véritable. Dieu est véritable. Sa parole est vérité. Et le Seigneur a dit, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et nous avons aussi reçu cela, que nous devions garder et préserver la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise. Il a été suggéré que j'appelle tous les frères ou quelques frères de la CSSR, de la Pologne, de la Finlande et de l'Italie. Et partout, peut-être que cela viendra ce soir, nous ferons une suite à ce que nous avons fait hier soir, dans l'espoir que nous comprenions encore mieux la parole de Dieu, que nous connaissions encore plus profondément le plan de salut de Dieu pour l'humanité et que nous soyons plus reconnaissants envers Dieu. Je voudrais commencer par le prophète Ésaïe. Et plus précisément par le chapitre 53, il s'agit en effet du chapitre de l'Évangile dans son résumé complet en ce qui concerne la rédemption. Au départ, je voudrais d'abord lire le verset 10, mais lorsque le chœur a été chanté, j'ai déjà pensé au verset 5 et au verset 4. Et donc, je veux lire ces deux versets maintenant. Pourtant, c'était nos maladies qu'il apportait et nos douleurs qu'il a pris sur lui alors que nous le pensions puni, frappé de Dieu et martyrisé. Et pourtant, il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. Le châtiment était mis sur lui afin de nous donner la paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pour ce qui est de l'histoire du salut, qui est d'une importance capitale, disons encore une fois amen à ces deux versets. Il était blessé à cause de nos transgressions, frappé à cause de nos iniquités, et le châtiment qui aurait dû nous frapper était tombé sur lui. Était mis sur lui. Il a été frappé afin que nous puissions sortir libres. Si cela n'est pas la grâce et l'amour et la miséricorde de Dieu, alors je ne sais pas. Et nous avons aussi compris par la vraie connaissance de Dieu que Dieu n'est pas resté en haut dans le ciel, les mains jointes, à regarder ce qui arrivait à son fils sur la terre. Mais nous avons compris ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, Dieu était en Christ. Dieu était dans le ciel, mais Dieu était aussi en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est pourquoi nous pouvons transmettre cette offre de grâce divine au monde entier. Je voulais, comme je l'ai déjà remarqué, lire à partir du verset 10. Verset 10, Ésaïe 53, verset 10. « Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir par la maladie quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché. Il verra une semence, postérité, et une semence, et vivra de longs jours, et la volonté de l'Éternel dans le plan du salut s'accomplira par lui. » Nous allons bientôt aborder le fait qu'il y a différentes semences. Et Dieu a mis une inimitié entre une semence et l'autre. Et nous croyons que nous sommes la semence divine et que nous avons donc reçu le lien avec la semence divine de la parole afin de recevoir la parole en nous, de l'affirmer, de dire Amen et de nous placer au-dessous d'elle. Permettez-moi de lire la partie qui concerne Gethsémané, également dans Ésaïe 53, dès le verset 11. Verset 11. « À la suite de son angoisse de l'âme, il verra du fruit et en sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur, comme juste, aidera la multitude à être justifiée en se chargeant et en portant sur lui leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai pour héritage cette grande multitude et il partagera le butin avec les forts en récompense du fait qu'il a donné sa vie dans la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs alors qu'il a porté le péché de cette multitude et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. N'est-ce pas ce qui s'est passé à Golgotha? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutes les Écritures ont été accomplies du début à la fin. Quand il donnera sa vie dans la mort en expiation, il aura la multitude pour butin. Je voudrais lire à ce sujet le psaume 2. C'est l'un des psaumes les plus glorieux qui soit. Je voudrais maintenant lire le psaume 2. Psaume 2. Versets 7 et 8. Laissez-moi faire connaître le dessein de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Plutôt, je t'ai moi-même engendré aujourd'hui. Revendique de moi et je te donnerai les nations en héritage et à toi en possession les extrémités de la terre. Amen. Je vais certainement devoir vous lire aussi les deux derniers versets. Les deux derniers versets du psaume 2. Servez l'Éternel avec crainte, poussez-lui des cris de joie avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne vous et que vous ne périssiez dans votre voie. Avons-nous entendu cela? Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Pourquoi? C'est dans le Fils que Dieu est devenu notre Sauveur. et a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il y a des religions qui glorifient Dieu en tant que Père. Et l'un de nos frères l'a déjà dit dans tout l'islam. Et cela représente environ 40 gouvernements sur terre. On croit que Jésus est né d'une vierge. Et on l'appelle Isaïe. Cela remonte à Yessé. Les uns écrivent Isaïe, les autres Yessé. Et ils croient qu'il reviendra avant que Dieu n'établisse son règne sur la terre. Parmi les 5 grands prophètes, ils classent Jésus comme le plus grand et Mahomet comme le dernier. Mais cela ne leur sert à rien. Il faut reconnaître que Jésus est la révélation de Dieu lui-même sous forme humaine. Amen. Je pense alors à ce cher homme, le Zoulou, dont frère Branham a parlé lorsqu'il était en route avec frère Jackson et qu'il a rencontré un vieux chef très malade. Et un missionnaire est passé avant et il a dit, je vais demander au Fils de Dieu de t'aider. Ah, dit-il, tu sais quoi, je suis un chef, ne demande pas au Fils, mais demande au Père de m'aider. Il faut parfois pouvoir le dire avec humour. Il y a des gens parmi les païens qui en savent plus sur Dieu que les soi-disant chrétiens incirconcis. Oui, c'est ainsi. La théologie de l'époque et de l'heure actuelle est complètement à côté de la plaque. Mais revenons à notre sujet. Celui dont nous avons parlé hier. Pour cela, je voudrais lire Lévitique, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17, ces versets connus 10 à 12, du verset 10 à 12. Lévitique, chapitre 17, du verset 10 jusqu'au verset 12. Si de plus quelqu'un de la maison d'Israël et des étrangers qui séjournent avec eux se délectent de quelque sang que ce soit, contre un tel homme qui se délecte de sang, je tournerai ma face et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie du corps est dans le sang. Et je vous l'ai donné pour l'autel, afin que vous receviez ainsi l'expiation de vos péchés. Car c'est le sang qui fait l'expiation par la vie qu'il contient. Avons-nous entendu cela? Très bien résumé, exprimé avec une grande précision. Je le relis la dernière partie du verset 11. Car c'est le sang qui fait l'expiation par la vie qu'il contient. Il y a en effet de la vie dans toute la création, mais une vie passive. Chaque arbre, chaque brin d'herbe, la vie est dans toute la nature. Mais ici, il s'agit de la vie dans le sang. Et nous allons voir tout de suite pourquoi la rédemption par le sang était nécessaire pour nous, dont la vie est dans le sang, afin de nous ramener à la condition divine. Seuls ceux qui comprennent réellement la chute de l'homme peuvent aussi comprendre pleinement la rédemption de Dieu à Golgotha. Tous les autres parlent de péché originel. Ce mot n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Il n'a aucune importance. Pourtant, nous avons hérité de certaines choses et on parle de beaucoup de choses. Mais ce qui s'est réellement passé est resté caché aux hommes. Mais, quoi qu'il parle du péché originel, mais Dieu, dans sa sagesse, l'a fait connaître. Passons maintenant à la Genèse, au troisième chapitre, pour y examiner brièvement certaines choses. Genèse, chapitre 3, on pourrait lire ici le verset 7. Il y a question ici de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de choses nombreuses et variées. Nous ne nions pas du tout. Mais nous confessons qu'il y avait là un jardin, un paradis, avec des arbres magnifiques et des fruits magnifiques. Cela est vrai. Personne ne l'a nié. Mais il y avait plus que cela. Il y avait aussi un serpent. Et il y avait encore Adam et Ève. Et il y avait aussi l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et aussi l'arbre de la vie, l'arbre de vie. Et vous comprenez que l'homme a saisi l'arbre de la connaissance au lieu de se tourner vers l'arbre de vie. Et lorsque la chute a eu lieu, Dieu a seulement dit que l'homme ne devait plus manger de l'arbre de vie et vivre éternellement dans son péché. Vous voyez de quoi il s'agit? L'homme était tombé. S'il avait pu manger de l'arbre de vie, après la chute, il aurait été immortel dans son péché. Et cela n'est pas possible. Que veut Dieu avec des gens qui pêchent éternellement, qui sont contre lui et qui se rébellent éternellement? Dieu voulait un retour en arrière. Et il a réussi ce retour par Golgotha, le début de la nouvelle création. Oh, quelle image glorieuse! Je ne sais pas ce que vous pouvez y voir ou pas, un peu d'anglais traduit en français ici. Pensez en anglais, parlez en français, mais pour moi, l'image est claire. Je vais maintenant... L'enfant Franck a dit en allemand, donc je traduis, je dis en français. Je vais maintenant lire Genèse 3. Genèse 3 du verset 13. Genèse 3 du verset 13. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé. » Personne ne nie qu'il y ait eu séduction et qu'on ait mangé. Mais nous verrons bientôt qu'il s'est passé un peu plus que cela. Le verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit devant tout animal apprivoisé ou sauvage. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Si vous lisez Genèse 3 du verset 1 à 7, vous constaterez que le serpent a eu toute une conversation avec Ève. C'était une véritable discussion et il y avait des allers et retours. Et c'est là que je pense à la phrase de Frère Branham. La science cherche frénétiquement, on l'appelle missing link, ce petit bout de français, chaînon manquant, on le cherche. Et alors frère Branham dit avec grandeur, par révélation de l'esprit, vous l'avez là dans le jardin d'Éden. Les gens parlent de gens de l'âge de pierre. Et voilà les différentes dénominations ou bien leurs différents noms. Ce n'était rien d'autre que la descendance de Caïn, un mélange entre l'animal et l'homme. L'âge de pierre, tous ces hommes, et les fouilles que la science n'arrive pas à gérer, d'où elle déduit la théorie de l'évolution. Les fouilles sont là, et les crânes sont très différents. Mais ils n'ont pas la réponse à ce qu'ils trouvent. La réponse sur les mystères de Dieu ne s'entend pas dans une faculté scientifique, mais est révélée là où elle doit l'être. Nous sommes reconnaissants pour de telles révélations que Dieu nous a données par grâce, pas seulement transmises à nous par le ministère de Frère Branham. Je continue la lecture du verset 15. Et je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité, en ta semence et sa semence. Là, il est parlé de la semence du serpent et de la semence de la femme. Celui qui est la semence de la femme, qui devait écraser la tête du serpent. Amen. Celui qui est la semence de la femme devrait écraser la tête du serpent. La semence qui devait venir par la femme est Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous le lirons encore ici et dans d'autres passages. Verset 15, je relis. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et... Donc, semence, c'est une postérité. Postérité, quand... ou bien descendance. Si l'on dit la semence d'Abraham, il s'agit de la descendance d'Abraham. Est-ce que cela est compréhensible? On pourrait mentionner d'emblée des dizaines de passages bibliques à ce sujet. Nous continuons à lire. Et plus précisément, il, la fin du verset 15, il t'écrasera la tête et tu le piqueras au talon. Il suffit de lire le chapitre 15 de 1 Corinthiens pour trouver la réponse. Jusqu'au jour de la crucifixion, la mort a tout englouti. Mais ensuite, la mort a été engloutie dans la victoire. Je vous le lis afin que vous croyiez que cela est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 15, ici nous lisons à partir, la deuxième partie du verset 54. La mort est engloutie dans la victoire. La fin du verset 15, du verset 54. La mort est engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Verset 55. La mort s'est mise en marche. Elle a tout emporté. Car elle a régné. Car tout est tombé dans le domaine de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras de la mort. Alors, ainsi, la mort a atteint tous les hommes, a pénétré dans tous les hommes et les a tous dévorés. Maintenant, la semence de la femme est venue pour écraser la tête du serpent. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela aussi, pour la représentation imagée que chacun peut comprendre. Il est dit qu'il te piquera au talon, pas au genou, pas à la cuisse, pas n'importe où, mais au talon ou dans le talon, au bon endroit, afin que lorsqu'il sera piqué, il puisse poser son pied en bas pour écraser la tête du serpent directement. Amen. Pendant qu'il le pique, amen. La parole de Dieu est si claire, il te piquera au talon, mais tu lui écraseras la tête. C'est arrivé juste à temps. Merci à mon Dieu pour cela. Le diable est peut-être un artiste, mais Dieu est tout puissant. Et il ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet. Nous devrions comprendre que la mort n'est plus un mal pour nous. mais un ascenseur qui nous transporte du temps vers l'éternité. Pour les non-croyants, c'est peut-être très grave. Mais Jésus a dit, je l'ai lu aujourd'hui sur le toit ici, sur le toit, Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Nous ne faisons que passer par la vallée de la mort, mais pas dans la mort, seulement dans la vallée de la mort. Et ce faisant, nous ne craignons aucun malheur, car le malheur a été bien réparé. Le dommage a été réparé par Golgotha. Loué soit le nom du Seigneur. Il est maintenant écrit au verset 16. L'affaire du serpent était maintenant terminée. Maintenant, le Seigneur Dieu se tourne vers Ève et dit à la femme. Mais il dit à la femme, « Je te préparerai beaucoup de fatigue quand tu seras mère. C'est dans la douleur que tu enfanteras des enfants. » Et néanmoins, tu auras des désirs pour ton mari, mais il sera ton Seigneur. N'en est-il pas ainsi jusqu'à aujourd'hui? Les femmes mettent au monde leurs enfants dans la douleur. Mais avez-vous déjà entendu dire que si une femme mangeait le fruit d'un arbre quelconque, des enfants naîtraient ensuite? Je n'ai jamais entendu cela. Il s'est passé ou il doit s'être passé quelque chose que nous connaissons comme ayant été la chute directe de l'homme. Et si il est écrit qu'Ève a été séduite, alors j'aimerais savoir si quelqu'un venait à vous et vous disait, imaginez, savez-vous que ma fille a été séduite? Vous ne croiriez tout de même pas qu'elle a mangé une glace, n'est-ce pas? S'il vous plaît, quelqu'un croirait-il qu'elle a mangé une glace? Certainement pas. Là encore, je pourrais utiliser un grand nombre de passages bibliques. Lorsque Joseph était en Égypte et que la femme du roi voulait s'emparer de lui, il est écrit textuellement qu'il ne s'est pas laissé séduire par elle. J'ai lu suffisamment de passages bibliques. Vous pouvez vous y fier. Après cette séduction, le Seigneur Dieu a prononcé la malédiction et l'a placée là où elle devait être placée. Il n'a pas dit, si tu prends encore une fois n'importe quel fruit là, tu auras mal en le mangeant. Il a dit à sa place, dans la douleur, tu enfanteras des enfants. Et savez-vous ce que je vais vous dire d'autre? La parole de Dieu est si parfaite qu'elle est déjà ici exprimée au pluriel déjà. Et ça aussi, je vais vous le lire dans le chapitre 4. Car la plupart des gens s'arrêtent trop tôt. Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas lire une chose, un sujet jusqu'au bout. Dans Genèse, chapitre 4, nous lisons le verset 1. Ève enfanta ensuite un fils, Caïn, à Adam, son mari. Elle dit alors, c'est un homme que j'ai appelé à l'existence avec l'aide de l'Éternel. Cette expression « aide de l'Éternel » a été fatale à de nombreux théologiens. Oui, je vous le demande, chers sœurs, il n'y avait pas encore de sages femmes, n'est-ce pas, à l'époque? Il n'y avait pas encore de médecins. Il n'y avait encore rien. Et les douleurs ont commencé. Les cris étaient énormes. Oui, qui pouvait aider? Je vous en prie. Pas de problème. Le médecin n'était pas encore là, non plus. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, aura aidé, comme c'est écrit ici, avec l'aide du Seigneur. Mais écoutez, ce qui est écrit au verset 2, car ceci est très important. Après cela, elle enfanta encore une fois, à savoir son frère Abel. Sans qu'il soit question de connaissance, sans qu'il soit question d'avoir été connu. Comprenez-vous cela, encore une fois? Comprenez-vous cela? Il n'est plus question d'avoir été connu. Le premier est né, puis le second, Abel, est né sans qu'il soit question d'avoir été connu. Sans qu'il soit question, encore une fois, d'avoir été encore connu. Je dis tout cela ou je cite ces passages des Écritures pour une seule et unique raison. S'il y a encore parmi nous de tels frères et sœurs qui sont impliqués dans des discussions et qui ne savent peut-être plus quoi faire, que cela vous aide à obtenir plus de clarté comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Comme vous l'aviez eu jusqu'à présent, il n'y a pas à vous contenter d'entendre dire oui, cet homme-là a dit ceci ou cela, ce Branham, etc. Mais à croire vous-même et à prouver cela par les Écritures et pouvoir le montrer de manière biblique. J'aimerais en fait continuer à lire. Et ce qui a été dit, je l'espère, suffit à nous montrer en quoi consistait la chute de l'homme. Satan est ainsi entré dans la chair et le sang de l'humanité. Et Dieu a dû trouver un moyen d'entrer dans la chair et le sang pour nous arracher au domaine de Satan et nous ramener dans la lignée divine, dans la race divine. C'est ainsi, c'est oui et amen. S'il y avait eu un fruit en jeu, Dieu aurait pu prendre aussi un autre fruit. C'était l'engendrement. Et c'est pourquoi que Dieu a dû faire un nouveau départ par engendrement. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Le début de la création de Dieu. Gloire au Dieu vivant. Fini le croisement. Par la croix, la croisée des chemins a été abolie. Nous avons été ramenés et amenés à la race divine que nous aurions dû être déjà dès le début. Je voudrais lire un passage de 1 Corinthiens pour que vous sachiez qu'il y a eu deux commencements. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous lisons ici le verset 21, du verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 21. En effet, 1 Corinthiens 15, verset 21. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts se fait aussi par un homme. Remarquez-vous, par un homme. Le Seigneur est devenu serviteur. Est-ce que vous comprenons cela? Il est devenu un être totalement humain. Il a même dit, comme nous l'avons lu, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Il est mort en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. En esprit, il était Dieu. Et en esprit, il est descendu, prêché aux esprits en prison. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il vit. Et nous aussi, nous pouvons vivre. Encore une fois, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22 maintenant. En effet, comme en Adam, tous meurent, de même aussi en Christ, tous seront ramenés à la vie. Mais chacun en son rang, selon sa propre répartition. En effet, comme en Adam, tous meurent, de même en Christ, tous seront ramenés à la vie. Ici, dans le même chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45, il est écrit, oui, presque une répétition, je le lis. C'est ici que c'est écrit aussi, C'est pourquoi il est écrit 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante naturelle. Le dernier Adam est devenu l'esprit qui crée la vie. L'esprit qui crée la vie. Loué soit Dieu. Je poursuis ma lecture. Le verset 46, 1 Corinthiens 15. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Donc, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. Alléluia! C'est l'Éternel du ciel. Mais homme, le deuxième homme, je pourrais le lire. Mais l'homme, le deuxième homme, je pourrais vous lire quelques passages, par exemple dans la lettre à Timothée. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir l'homme, Jésus-Christ. Il était un homme. Il était homme à 100%. Il était Dieu. Dieu à 100%. Il a renoncé à la divinité pour devenir homme. Quand nous lisons qu'il a grandi en grâce et en sagesse et en forme physique. Et quand on lit au sujet de mon Seigneur qu'à l'âge de 12 ans, il était dans le temple et parlait avec les gens. C'est cela. Ensuite, cela semble presque maladroit. Car mon Seigneur était avant qu'Abraham ne soit. Il parle avant qu'Abraham soit. Je suis. Mais le voici dans son humanité. Dans son humanité. Il y a eu le jour de la procréation, de l'engendrement, le jour de la naissance, le jour de la circoncision. Bien, mes frères et sœurs, notre Seigneur et Rédempteur a été circoncis le huitième jour. Il était homme. Il était homme. Amen. Dans quel but? Pour satisfaire à ce que la loi exigeait et par laquelle nous étions condamnés pour ceux qui étaient sous la loi et pour racheter tous ceux qui n'étaient pas sous la loi et pour donner à tous, sans distinction, la grâce et le salut. D'un point de vue terrestre, sans exception de personne, il a eu un début du point de vue terrestre. Mais nous arrivons encore à quelques passages bibliques. Je lis seulement dans 1 Corinthiens 15, maintenant encore une fois le verset 47, et ensuite jusqu'au verset 49. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. C'est l'Éternel du ciel. Tel qu'est l'homme terrestre, tels aussi sont les hommes terrestres. Et tel qu'est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Amen. Amen. Là, je pense alors à la parole dans l'épître de Jean. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. Alléluia. Lui le premier-né, entre plusieurs frères. Et pour que vous preniez cela comme une consolation divine, lisons encore le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porteront aussi l'image du céleste. Ce sera la rédemption complète, achevée, accomplie. Alléluia, alléluia. Achevée quand il n'y aura plus de traces de péché et de maladie, de détresse, de souffrance. Je peux vous l'assurer. Dans la résurrection, il n'y aura que des corps parfaits. Jeune, dans la fleur de l'âge, de notre jeunesse. Personne ne marchera plus avec une canne. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous, qui avons déjà un peu de mal à nous déplacer après un lourd fardeau ou à nous lever le matin, nous serons particulièrement heureux et nous nous réjouirons particulièrement lorsque nous serons jeunes et que nous ne ressentirons plus rien de tout cela. Je voudrais maintenant lire à ce sujet un passage du prophète Ésaïe afin de le compléter un peu avec la promesse de la semence qui devait venir par la femme. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Tout-Puissant lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge deviendra de bonne espérance et enfantera un fils à qui elle donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire et pour que vous compreniez aussi la partie humaine de l'Emmanuel, je lis le verset suivant et vous prie de ne pas vous en offusquer. Le verset 15, il vivra de lait caillé et de miel au temps où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Je voudrais donner ceci à tous, à tous les jeunes frères par expérience. Au moment où le masculin veut s'exprimer un peu, manger un peu plus de lait caillé et de miel et pas trop de steak, etc. La parole de Dieu, je vous le dis, c'est écrit ici, au moment où il sait rejeter le mal et choisir le bien, il devrait consommer du lait caillé et du miel. Dieu sait tout en détail. La description concerne la partie terrestre. Dieu y a également pourvu dans sa parole. Notre Dieu n'a rien oublié. C'est un Dieu absolument pratique. Quand on regarde parfois les monastères et les ecclésiastiques, entre guillemets, n'est-ce pas, on se dit vraiment que quelque chose ne va pas derrière les murs. Mais Dieu est un Dieu qui a un rapport avec la chose. Continuons à lire Michée, peut-être encore le chapitre 9, la parole bien connue d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, pardon, pas Michée, Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Car l'enfant nous sera né, le fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination. Et son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu vainqueur, Père éternel, Prince de la paix. Verset 6, sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David. Et pour sa royauté, l'établissement et la soutenant par la justice et l'équité, dès maintenant jusqu'à dans l'éternité, le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Lui, le Père éternel, le Prince de la paix, naît dans ce monde comme un enfant, enveloppé de l'ange et déposé dans une crèche, de linge et déposé dans une crèche. Mais ce n'était que le début, le commencement. Nous ne regardons pas seulement au commencement. Nous regardons à la fin, à ce que Dieu a accompli en Christ. Lisons dans le prophète Michée, le cinquième chapitre. Michée, chapitre 5, dès le premier verset. Quant à toi, Bethléem, Éphrate, tu es certes trop petite pour faire partie des villes de la province de Juda, mais c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël. Michée 5, verset 1. Et dont l'origine appartient au passé, au jour de la préhistoire. C'est pourquoi, maintenant écoutez ce qui suit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Amen. Jusqu'à ce que celle qui doit enfanter ait accouché et que le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il est ici question de Bethléem, où notre Seigneur est-il né? À Bethléem. Les Écritures ont été accomplies en tout point. Permettez-moi de lire Luc 2 pour vous le montrer à partir du Nouveau Testament. Nous le connaissons tous très bien et pourtant, cela nous fait du bien de lire la parole de Dieu. Luc, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 13. Luc 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. L'Ancien et le Nouveau Testament concordent exactement. La semence de la femme a été annoncée depuis Genèse 3, verset 15, par le prophète Ésaïe, par le psalmiste, par le prophète Michée, comme ayant enfanté celle qui devait enfanter. Et maintenant, nous apprenons que nous voyons que cela a été fait. C'est accompli pour notre salut, pour que nous soyons sauvés, pour notre bénédiction. Oh, laissez-moi le crier une fois de plus au monde entier. Dieu s'est fait homme pour ramener l'humanité à la condition divine. Ce n'est pas un sujet sur lequel il faut étudier pendant 9 semestres dans un séminaire. Et je pense ici à l'homme qu'il a effectivement étudié. Vous pouviez lui dire ce que vous vouliez. Sa tête ressemblait à celle d'une vache. Si ce n'est pas un âne. Et il secouait effectivement la tête. Ici et là, un homme des Pays-Bas et avait de toute façon les oreilles décollées. Quant à la divinité, il ne pouvait même pas en parler. Il a dit, toute mon étude a étudié la relation du Père au Fils, du Fils au Père, de l'Esprit au Fils, de l'Esprit au Père. Cela allait en zigzag, toute la confrontation. Et je disais, mon cher monsieur, ma révélation, c'est le contraire. C'est-à-dire de montrer comment tout se tient. Amen. Avez-vous compris? Il ne s'agit pas d'une relation les uns avec les autres. Ici, ils étudient la relation du Père au Fils et vice-versa. Arrêtez donc. C'est la révélation et encore la révélation. C'est une révélation. Toute la théologie a égaré le peuple. Grâce à Dieu, nous avons maintenant à la fin des jours une vision claire grâce à la révélation claire de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais si quelqu'un prie ici, Père, je te remercie d'être mort pour moi, j'ai alors envie de l'interrompre et de dire un instant, s'il vous plaît, ce n'est pas vrai. Car le Père n'est pas mort. C'est le Fils qui est mort. Le Père est Dieu en tant qu'Esprit. Mais nous avons déjà suffisamment parlé de cela. Encore deux passages bibliques, l'un est tiré d'Apocalypse 3, que nous venons déjà de citer. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Qui concorde à l'essentiel de ce dont nous parlons aujourd'hui, touche le noyau, le centre. Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véridique et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, nous avons le commencement de la création de Dieu en forme humaine. Nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous sommes devenus une race divine par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi parle celui qui est l'Amen. L'Amen, ça veut dire c'est le ainsi dit, c'est ainsi soit-il. Conclusion, fini. L'Amen, l'absolu, il est l'Amen. Et nous l'avons entendu dans l'introduction, la parole d'introduction, fidèle dans sa propre maison. Celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. La création par l'engendrement. Et c'est exactement ce qui arrive à tous ceux qui naissent de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, mais une création par engendrement. C'est ce que je vous lis. Ce doit être dans l'épître de Jean. Je ne suis pas préparé pour cela, mais je ne veux pas que quelqu'un s'en aille d'ici en pensant que nous l'avons seulement dit ainsi. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Tout homme qui croit que Jésus est loin de Dieu est engendré de Dieu. Et tout homme qui aime son père aime aussi ses enfants. Nous avons été engendrés par Dieu, par la parole et l'esprit. Et ainsi, nous sommes devenus une nouvelle création. Un Pierre, chapitre 2. Ici, nous lisons le verset 9. Peut-être même à partir du verset 7. C'est donc à vous, 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Qui possédait la confiance, qu'est donné le bien précieux, qui possédait la confiance, possédait la foi, qu'est devenu le bien précieux, qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et donc, pierre d'achoppement et rocher de scandale, ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole, désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. Vous, par contre, vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Gloire au Dieu vivant, nous avons vécu deux naissances. Une naissance dû à une union et une procréation ou engendrement terrestre et une une nouvelle naissance due à une union avec Dieu et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Une union d'amour doit avoir lieu lors de la première naissance, n'est-ce pas? Et aussi, une union d'amour doit avoir lieu lors de la première naissance et aussi lors de la deuxième naissance. Ainsi, Dieu a aimé le monde. L'amour, c'est l'amour qui l'a poussé. Par amour, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Puisse le Dieu Tout-Puissant écrire ses paroles dans nos cœurs, nous révéler encore plus profondément le contexte et nous rendre plus reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. En vérité, nous confessons qu'il a fait de grandes choses pour nous et nous nous en réjouissons. Personne n'a besoin de mourir dans son péché. Christ est mort pour nous, pour nous justifier une fois pour toutes. Il est le commencement de la création de Dieu et nous en sommes la continuation. Il est le premier-né et nous sommes les premiers-nés. Il est les prémices. Il est le premier, pardon, et nous sommes les prémices. Il est le roi et nous sommes un peuple de rois. Il est le souverain sacrificateur et nous sommes un peuple de sacrificateurs. Alléluia! Que Dieu soit notre Dieu, loué pour sa grâce et son salut et pour sa grâce qu'il nous a accordée. Amen. Levons-nous, adorons et remercions Dieu de tout notre cœur. Frère Rousse, voudrais-tu venir? Père céleste, nous te remercions ensemble pour la puissante et sainte parole de Dieu qui nous a été offerte à nouveau par grâce. Seigneur, ce n'est pas par mérite, mais par grâce que tu nous parles comme à ton peuple. Car nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main, les membres de ton peuple. C'est à eux que tu as toujours parlé depuis le commencement. Seigneur, jusqu'à nos jours, jusqu'à dans nos jours. Seigneur, nous voulons te louer pour cela et exalter ton nom. Car c'est à toi seul que revient la gloire. C'est à toi seul qu'appartiennent la louange et l'adoration. Nous te remercions de nous ouvrir l'esprit, la compréhension pour ta parole, de nous permettre de la comprendre, de l'accepter dans nos cœurs, de la croire. Alléluia. Louange et action de grâce. Louange et adoration. Quelle grâce. Oh, quelle grâce de nous offrir tout cela si merveilleusement. Seigneur, cela passe aux yeux des intelligents et des sages, mais c'est aux yeux des tout-petits que tu le révèles. Seigneur, comme en ces jours là, comme en ces jours ici aussi, comme autrefois, Seigneur, nous t'adorons, nous louons ton nom, nous glorifions ta grâce ce soir et dans tous les temps. Bien-aimé Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis tout ton peuple, ô Seigneur, sur toute la terre, Seigneur. Je t'adore et je glorifie ton nom. Seigneur, nous te prions encore une fois que ta parole soit est produite ce soir, l'effet pour lequel tu l'as envoyé dans tous les cœurs qui l'ont entendu, même si elle était courte, Seigneur, mais de manière puissante. Nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Amen.